Bonsoir à toutes et à tous, c'est les voisines, je suis ce soir en compagnie de Thomas.
Bonsoir, bonsoir.
Vous commencez à avoir l'habitude. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes contents de nous retrouver. Ce soir, émission un peu spéciale, je dis ça à chaque fois. On a voulu parler de zombies, et plus particulièrement de The Walking Dead.
Moi, là-bas, je voulais parler juste de zombies.
Ouais, mais moi, je voulais parler de The Walking Dead, parce que c'est un sujet que je maîtrise quand même beaucoup mieux.
Bah, bravo.
Et on fera... J'ai fait des recherches, juste, c'était très long, et je me suis dit que plutôt que de rusher les choses, autant partir sur un truc très spécifique que je connais, et aller sur un univers avant de faire peut-être une émission un peu plus construite sur le genre zombie ou le zombie...
Je comprends.
Dans n'importe quel aspect de la culture.
Je comprends.
Ton rapport aux zombies, Thomas ?
Ça me fait peur.
Ah ouais ?
Non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mon rapport aux zombies, ça veut dire mon histoire un peu ? Ou juste mon rapport actuel ?
Non, ton histoire avec les zombies. Ouais. Quand est-ce que t'as découvert ça ? Est-ce que t'aimais bien ? Est-ce que t'aimais pas ? Avec quoi ? T'en es aujourd'hui ?
Écoute, je pense
tu
que
les
j'ai...
embrasses pour faire une bonne nuit.
Ouais, non, je pense que j'ai découvert les zombies sûrement dans des dessins animés... En mode qui prend l'image des zombies, tu vois.
Hein ? Ah bon ?
Ouais, je pense.
T'as vu des dessins animés avec des zombies, toi ?
Je pense qu'il y en a, hein. Faudrait réfléchir, faudrait que quelqu'un me sorte des exemples, mais je pense qu'il y a...
C'est à l'enfance.
Ouais, bah écoute, je suis sûr qu'il y a un Disney avec...
Dans Scooby-Doo, avec... je pense qu'il y en a.
Déjà, à un moment donné. Dans Scooby-Doo, il y a des
dans
zombies.
Dans Scooby-Doo, c'est ok. Mais bon, à part Scooby-Doo.
Après, tu commences le concept des zombies, je pense que tu l'as avec Halloween aussi.
Le film, tu veux
dans
dire ?
Dans la fête, Halloween.
Ah oui.
Halloween, tu l'as.
Ouais, mais tu vois, moi j'ai pas le souvenir enfant d'avoir été vraiment plus confronté que ça à des zombies. Je savais vaguement ce que c'était, mais j'étais pas hyper.
Aussi, il y avait Call of Duty.
Ouais, bah,
avec le mode zombie.
Moi j'étais pas très Call of.
Mais après, je pense que le vrai truc, la première chose que j'ai vue avec des zombies. De moi en termes avec mon expérience que j'ai vu de vidéo, je crois que c'est The Walking Dead, hein.
Ah ouais,
je crois que c'est The Walking Dead, mais j'ai regardé tard, dans le sens où quand c'est sorti, je pense que je l'ai regardé vers j'étais en 4e 3e.
D'accord, ça veut dire quelle année?
Je calcule. 2012, j'étais en 6e, donc 2013 14, vers 2016-2017.
Oh waouh, d'accord.
Ouais.
Ok, très bien. Et donc aujourd'hui, tu as quel rapport aux zombies ?
Moi, aujourd'hui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers de zombies, bah, justement parce que je voulais en parler. Mais bon, on m'a.
Mais on va en parler, je t'ai pas du tout interdit. On va en parler, j'ai juste dit que l'émission n'allait pas tourner qu'autour de ça.
Ouais, voilà, on l'a interdit.
D'accord.
On m'a boycotté. Mais
vous pouvez voir, il est ravi d'être sur l'émission à chaque fois.
Je suis super ravi d'être là, j'adore.
J'espère que
vous
êtes ravi aussi.
C'est ma deuxième émission.
Sinon, on va être beaucoup à pas être ravi, quoi.
C'est ma deuxième émission préférée d'RVE.
la première étant évidemment la Happy Hour.
Bien sûr.
Elle est l'autopromo, comme d'hab.
Mon rapport aux zombies aujourd'hui, bah, c'est que je vois bien ce qu'on peut faire avec la légende des zombies.
Mm-hmm.
D'ailleurs, aussi, on pourrait se poser la question de quand est-ce que vient. D'où démarre cette légende du
Mais ne t'inquiète pas, encore une fois, j'ai
D'accord.
eu beau ne pas faire une émission complète sur les zombies et le genre zombie, quel qu'il soit.
D'accord.
Il y a quelques recherches.
Très bien, j'aime beaucoup, donc je pourrais essayer de caler un peu ma science.
Heureusement que tu m'écoutes. moi, écoute, vu que tu me poses la question, et merci de me la
j'allais
poser.
J'allais te la poser.
moi, je détestais ça. Je sais pas quand est-ce qu'effectivement j'ai commencé à conscientiser je sais pas comment on peut dire, cette créature.
Mais tu détestais ça parce que tu l'as découvert comment ?
Bah, je sais plus, non, justement, c'est ça le truc, je sais plus comment je l'ai découvert, mais oui, effectivement, enfin, parce que même si je jouais pas à Call of Duty, je suis persuadée d'avoir eu des potes un peu plus grands que moi qui y jouaient, et je trouvais ça abominable. Et le concept du zombie, le fait que ça soit juste un cadavre en décomposition qui puisse venir te mordre et tout, mais vraiment, ça me révulsait, ça me répugnait, ça me faisait hyper peur, enfin, c'était vraiment un des ressorts horrifiques qui me touchait le plus. Ça et les enfants. Les enfants dans possédés, je veux dire,
ah
pas
oui,
les enfants dans la prison.
C'était gratuit après derrière.
Non, okay. Non. Enfin bon, les enfants. ça sera un autre épisode. Bref, c'était une blague.
Tu joues en personnage, c'était une blague.
Ouais. Non mais du coup voilà, et effectivement j'ai découvert, enfin j'ai un pote qui a essayé de me faire regarder au collège, donc bah en fait je suis en train de me rendre compte, parce que vu que je suis un petit peu une ancienne comparée à toi visiblement, moi j'étais au collège quand la série est sortie, car elle est sortie en 2011, et j'ai un pote qui voulait absolument me la faire regarder, il m'avait montré les deux, non l'épisode 2 et 3 je crois de la saison 1, ou 3 et 4 peu importe, lors d'un voyage scolaire, ça m'a terrorisée. Voilà, et ça m'a dégoûté, et bon voilà. Et de The Walking Dead, je sais plus si on a précisé la série. Mais du coup, ça, j'ai fait un... enfin, ça m'a conforté dans ma position que les zombies, c'est vraiment le pire truc pour moi. Et plus vieille, au lycée, j'ai regardé avec le youtubeur PewDiePie, que je suivais beaucoup à l'époque, il avait fait un let's play sur le jeu vidéo de Telltale Games, qui c'est pareil du coup, un jeu narratif, dont je parlerai un peu plus tout à l'heure aussi, qui a donc repris cet univers de The Walking Dead et qui en a fait un jeu vidéo. Et du coup, un jeu narratif, encore une fois, donc avec une histoire qui est hyper prenante et des personnages très attachants. Et ça a commencé à me désensibiliser, à me déphobiser des zombies. Et du coup, je me suis dit, bon bah allez, je retente la série. Et je suis tombée amoureuse de la série. Et depuis, les zombies, c'est le truc qui me fait le moins peur au monde, parce que maintenant, je sais comment les tuer.
Oui, mais justement, c'est ça qui est... c'est ce que je voulais dire dans mon propos liminaire, comme on dit. c'est que en fait, tu peux maintenant effectivement, t'as la figure classique du zombie, mais après maintenant, tu peux en fait créer ce que tu veux avec les zombies. Tu peux créer, par exemple, même des zombies qui ne meurent pas quand tu leur mets un truc dans la tête. Tu peux créer...
Oui, non, mais de toute façon, le concept du zombie, donc justement. Allons-y, maintenant qu'on a fait notre petit préambule de chacun, où est-ce qu'il se situe vis-à-vis du concept. Évidemment que le concept du zombie n'est pas unique et linéaire, et qu'il est bien propre à chacun déjà, à l'imagination de chacun, et à ce que chacun veut bien en faire, volontairement ou par peur et superstition. Parce que c'est effectivement une figure en fait qui est présente depuis très très longtemps en fait, logiquement depuis que l'être humain a conscientisé la mort et donc aussi qui s'est posé la question d'une potentielle vie après la mort. Mmh. J'ai vu qu'apparemment il y a des traces, alors pas avec ce mot-là, mais il y a des traces de morts vivants dans le Moyen-Âge et à la Renaissance. Même si c'est quand même assez flou entre qu'est-ce qu'un mort-vivant zombie, entre guillemets, et qu'est-ce qu'un mort-vivant fantomatique et de figure spirituelle. Mais voilà, le mot zombie tel qu'on le connaît, en tout cas aujourd'hui, il tire ses origines du vaudou africain, et donc avec l'esclavagisme et bah, là, comment on appelle ça ? Bref, les traites, etc., on se retrouve à Haïti et avec la rencontre dans les années 60 du cinéma américain, parce qu'à Haïti ils ont du coup tout un folklore et des croyances donc qui viennent de base du vaudou américain, africain pardon. Qui pour eux le mot zombie, et donc c'est vraiment de là que ça vient, ça désigne une personne qui est victime d'un sorcier vaudou, d'un prêtre vaudou qui s'appelle un Bokor. Et où en fait ça serait un sorcier qui du coup irait droguer avec une drogue bien spécifique une personne. Et qui la rendrait complètement sous son contrôle, etc. D'avoir un être humain finalement qui n'est plus maître de lui-même du tout, qui ne réfléchit plus par lui-même, etc., etc. Bon, après, j'ai vu d'autres aussi versions où ça serait potentiellement, il pourrait y avoir aussi des questions de ramener des morts à la vie, mais des morts bien spécifiques qui ont un esprit où c'était des gens soit complètement insatisfaits, soit surtout des gens mauvais, et où donc du coup on les ramène à la vie dans un corps qui n'est pas vivant, mais bref, pour les punir et leur donner un châtiment encore pire que la mort finalement, d'être coincé dans un stade entre deux. Voilà, et donc... Année 60, rencontre avec le cinéma américain, avec George Romero, qui qui s'inspire de ces traditions-là pour en faire son film, le fameux La Nuit des Morts Vivants. Mmh. Qui lance au cinéma le début du coup de l'intégration du zombie comme élément horrifique. As-tu des choses à dire là-dessus, justement, vu toi qui spécialiste du cinéma qui voulait parler de films
élément horrifique et qui, je crois, est la première fois que effectivement le concept du zombie c'est de manger le cerveau des humains.
Non, je suis même pas sûre que pour le coup ce soit lui qui... Enfin, en tout cas, pas ce premier film-là, mais c'est lui qui l'a vraiment... Enfin oui, c'est lui qui a commencé à vraiment définir la figure du zombie comme étant le mort-vivant, tel qu'il est beaucoup représenté aujourd'hui quand même. En tout cas, pas manger forcément le cerveau, mais à manger la chair humaine. À chercher à manger de la chair humaine.
Je crois que c'est notion de cerveau dans La Nuit des Morts-Vivants.
Peut-être.
Et surtout aussi ce truc de... Alors peut-être que là j'ai une bêtise par contre, mais ce truc de contamination zombie.
Tu veux dire de pandémie?
Non, mais le fait de si il y en a un qui te mord, comme les loups-garous en fait, parce que c'est quelque chose qui vient du mythe du loup-garou.
Alors c'est pareil, je sais pas exactement quand c'est venu, parce que les articles sur lesquels je suis tombée malheureusement sont très...
vague.
Très, très vague et très stylisée, avec peu de choses très nettes et
d'infos.
Explicites. ce qui m'a un petit peu frustrée, mais bon, voilà. Donc, j'ai vu qu'il y a eu des évolutions par rapport à tous les films qui sont sortis, justement les films d'horreur avec des zombies depuis les années 60 jusqu'aux années 80, et qu'il y a eu des grands titres qui ont un peu. Enfin, j'ai vu un article, mais qui n'avait pas l'air très clair non plus, donc bon, je vais pas trop me reposer dessus. Mais bref, il y a eu effectivement une première définition, en tout cas avec ce premier film, La Nuit des Morts Vivants, sur les zombies de George Romero, qui a donné en tout cas un bon fil conducteur et une première représentation très claire dans la manière dont il a mis en scène les choses, lui, sur le zombie dans le cinéma. Tu voulais dire, pardon, parce que du coup je t'ai coupé.
Non, et du coup, c'est exactement tout ce que t'as dit, et moi je pense que c'est... je crois, là, lui qui a inventé en tout cas les codes contemporains du zombie, et vraiment ce côté aussi, parce que avant, en fait, moi la question que je te posais, parce que moi j'ai toujours réfléchi à un truc, c'est est-ce que Frankenstein c'est pas un zombie déjà ?
Ben si, justement, c'est ça aussi le truc, c'est que la définition du zombie, c'est finalement en fait la définition du mort-vivant, enfin ça dépend, il y a plusieurs définitions évidemment, mais c'est surtout qu'il y a plusieurs. Le zombie égale mort-vivant, et du coup. Petite branche numéro 1, cadavre ramené à la vie. Petite branche numéro 2, cadavre ramené à la vie à cause d'une drogue ou d'une maladie. Il y a plein de styles de zombies différents qui se sont aussi du coup faits au fur et à mesure. Donc oui, Frankenstein peut complètement être considéré comme un zombie parce que c'est ça, quoi.
Mais c'est-à-dire que en fait, Romero, c'est... C'est très simple, c'est le zombie contemporain, c'est-à-dire ce fameux corps qui sort de la terre, la main,
un cadavre bien enterré, quoi, genre vraiment, il est vraiment bien mort.
Qui sort de la terre et qui veut aller manger
des êtres vivants. Principalement des humains,
et que ça fait peur, et qui marchent tout doucement.
Et qui sont très lents,
Et qui font des bruits bizarres. Et voilà, et qui font peur. Parce qu'ils sont beaucoup. Et ça c'est important.
Bien sûr, pour l'effet d'horreur.
Oui.
Puis au fur et à mesure, du coup, chacun y a mis son petit truc, parce qu'au fur et à mesure, on a eu des œuvres qui finalement, jusqu'aux années 80, multiples films d'horreur avec des zombies, etc., qui sortent, quelques adaptations au niveau du concept, etc., quelques changements, mais globalement, c'est à peu près les mêmes. À partir des années 80, petite pause sur les zombies, on commence à s'en désintéresser et on s'en fout un peu, et les jeux vidéo arrivent, le fameux jeu vidéo Evil Dead arrive, et ça repopularise complètement le concept, donc fin années 90. Et effectivement, début années 2000, 2002, 2003, grandes années pour le genre zombie, étant donné qu'en 2002, on a 28 jours plus tard de Danny Boyle qui sort. Donc, fameux film dont vous avez tous vu, je pense, le troisième opus, si je ne dis pas de bêtises, qui est 28 ans plus tard au cinéma, il y a...
moins d'un an.
Carrément moins d'un an, il y a quelques mois. Mais du coup, voilà, donc le premier de cette trilogie... pour l'instant, qui sort avec l'acteur Cillian Murphy, notamment l'acteur de
Peaky Blinders.
Peaky Blinders,
effectivement.
Pour les plus jeunes d'entre nous. et 2003 sort justement donc les prémices de cette émission, le comics de The Walking Dead aux États-Unis.
C'est
donc,
pas dans ces années-là aussi, Je suis une légende.
Avec Robert, de Robert Kirkman. Je crois aussi que Je suis une légende, c'est ça, mais Je suis une légende, c'est... Ah, Je suis une légende, t'es sur un zombie, mais tu sais pas vraiment, parce que c'est... Oui, c'est une forme de zombie. C'est une forme de zombie.
Ça a l'intérêt. Et après, je ferai un propos final sur le genre de zombie. Le genre du zombie. Et comment est-ce que, selon moi, il devrait être à partir d'aujourd'hui.
Bah vas-y, je t'en prie.
C'est pas fini encore.
Ah, un propos final, à la fin de l'émission, tu veux dire ?
À la fin du résumé de l'histoire des cinémas de zombies.
Ah mais si, j'ai fini, parce que là, moi, je suis arrivé à Walking Dead, et c'était, c'était mon...
Est-ce qu'on peut faire des conseils de films de zombies ?
Alors, on fera ça, mais après une petite pause musicale pour se mettre dans l'ambiance.
Allez, vas-y, on fait ça.
Tant pis, ça va être un petit peu...
C'est pas grave, c'est haché, mais justement, les gens restent comme ça.
Restez avec nous pour des conseils de films de zombies. On va se mettre dans l'ambiance Walking Dead aussi, du coup, en attendant, en écoutant le thème de la série, donc par le superbe compositeur, moi j'aime beaucoup ce compositeur, Bear McCreary. Et ensuite on enchaîne directement, parce que le thème d'une série, on le sait tous, c'est quand même que quelques secondes, en tout cas quelques dizaines de secondes, avec Rick's Despair, pareil de Bear McCreary. À tout de suite. Et bonsoir de nouveau à toutes et à tous. J'espère que vous êtes dans l'ambiance.
On est dans l'ambiance.
Vous êtes prêts à rester sur... Bon, effectivement, on parle de zombies, on parle de Walking Dead. Oui. Ça va pas être hyper joyeux en termes d'ambiance, j'entends. Musicale, sonore, En termes d'énergie et de blagues, on est toujours au rendez-vous, bien sûr. On attendait que Thomas nous fasse une petite liste de recommandations de
bien
films
sûr.
De zombies.
Eh bien, les amis, c'est très simple. Pour moi, les zombies permettent de parler de plein de choses. Je pense notamment à The Walking Dead. On en parlera après, assez longtemps pour que je n'en parle pas maintenant.
Restez bien là parce que vraiment, c'est une émission de 3h30, donc
J'étais pas au courant. mais par exemple, si vous regardez The Dead Don't Die de Jim Jarmusch, j'aime beaucoup Jim Jarmusch.
C'est une comédie à moitié
Dead Don't Die. Avec Adam Driver, Bill Murray.
Scarlett Johansson, non?
Non. Selena Gomez.
Selena Gomez, eh oui.
Et alors attention, le cinéma de Jim Jarmusch, c'est très particulier, mais je vous encourage à regarder, à aller voir ce film, parce que ça parle encore d'autres choses avec des zombies, et il utilise les zombies pour parler de quelque chose de différent, et c'est très intéressant, je vais pas spoiler. Après, vous pouvez du coup rire avec les zombies, comme devant Zombieland, par exemple.
Ou Shaun of the Dead.
Et vous avez, ça c'est un petit conseil, un très très bon film français qui est sorti il y a maintenant quand même pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps, 5 ans, 6 ans, qui s'appelle La Nuit a dévoré le monde.
Ok, je connais pas.
Je n'ai pas le nom du réalisateur, je suis désolé. Mais c'est un super film qui se passe à Paris. Et qui parle aussi, pareil, lui du coup plus du côté humain, enfin un peu plus... alors pas les mêmes sujets que The Walking Dead au niveau social, mais qui est plus sur j'allais dire la dépression, pas vraiment la dépression, mais le sentiment de solitude humaine.
Oui, bah, justement c'est ça, c'est que effectivement les zombies, comme beaucoup de créatures, hein, de toute façon, sont rarement utilisés, à part dans probablement des films d'horreur purement horrifiques et qui sont vraiment là juste pour faire frissonner. Comme des figures horrifiques, en règle générale, c'est quand même soit une métaphore, soit ou une allégorie, soit un moyen de parler d'autre chose, de parler de l'humanité, de parler
concept...
au contraire du chaos et du mauvais, entre guillemets, dans l'humanité, comme beaucoup de films post-apocalyptiques après, dans tous les cas, d'œuvres, pardon.
Tous les genres du cinéma d'horreur, ils ont un contexte historique.
Bien sûr.
Et ils parlent de quelque chose. Ils sont des allégories. Le plus évident et le plus connu, c'est bien sûr les films de monstres, avec Godzilla par exemple.
Mm-hmm.
Godzilla, du coup, c'est les Japonais qui l'ont créé en 50 et quelques.
Mm-hmm.
Pour pas. Bah, du coup, juste après traumatisme de Seconde Guerre mondiale, Hiroshima, Nagasaki, tout ça. Des bombes nucléaires, pour ceux qui ne savent pas, ou les plus jeunes d'entre nous.
Bien sûr.
Du coup, les États-Unis qui ont envoyé les bombes nucléaires au Japon, enfin bref, ce qui a mis fin à la Seconde Guerre mondiale, du coup. Et qui était très traumatique. Et du coup, Godzilla, c'est vraiment ce monstre qui, à la base, en fait, est créé par des déchets radioactifs dans la mer. C'est un petit poisson. C'est un animal marin.
C'est une petite sardine.
C'est un animal marin qui, au final, va tomber sur des produits nucléaires dans la mer, avec des essais nucléaires et tout ça.
Et
ça va devenir le monstre Godzilla qui va venir tout détruire pour aucune raison. On ne sait pas pourquoi est-ce que Godzilla vient détruire Tokyo. Juste, il est destructeur. Donc voilà, c'est cette peur de l'arme atomique. Les zombies, effectivement, comme tu l'as dit, c'est ce fameux truc de ce qu'il y a derrière la mort. Après, je pense qu'il y a aussi, un côté d'un côté religieux et d'un côté. Il y a aussi une forme de peur. D'ailleurs, je suis très étonné qu'après le Covid, on n'ait pas eu de recrudescence de films de zombies. Je pense
tout le monde était trop sous le choc et traumatisé.
Je pense au sens large du terme, parce que c'est là où je voulais aller pour finir. Le futur du film de zombies, selon moi, il faut jouer avec le code de qu'est-ce que c'est qu'un zombie. Et moi, je pense réussir à aller à la limite, en fait, où est la frontière entre un humain et un zombie. Parce qu'un zombie, comme tu dis, c'est quelqu'un juste qui renaît, qui est mort et qui
c'est
est
un
mort
corps,
vivant.
C'est un corps, c'est pas quelqu'un.
Oui, mais justement, il y a la question.
Mais
si ton zombie se comporte comme un
oui,
humain.
Oui, non, mais alors, tu dis ça, mais évidemment qu'il y a déjà eu des films là-dessus. Il y a un film que j'ai vu à l'époque qui n'avait pas énormément marché, parce que c'était une espèce de comment on appelle ça, comédie romantique sur fond de d'apocalypse, zombie, etc. Je ne sais plus comment s'appelait ce film.
C'est Orgueil et Préjugés et Zombies.
Et non, ça c'était la première adaptation justement de des classiques qu'on a remanié en ouais, mais il se passerait quoi.
Mais il y a des zombies.
Il se passerait quoi s'il y avait des zombies qui arrivaient dans l'histoire, en fait.
Il faut le faire avec tous les films.
Non, mais c'est incroyable. Moi j'aime trop le concept. Non, pas du tout. Ça m'énerve parce que là je suis fatiguée, donc j'ai aucun nom qui me revient. Alors que je connais cet acteur, l'acteur de Skins, tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas regardé Skins. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre
dans Paul les
nouveaux
Mescal.
Non, pas du tout. Dans les nouveaux X-Men, il fait celui qui se transforme en bête bleue là.
Bon, ah oui, mais j'ai pas le nom.
Je suis désolée pour ceux qui l'ont et qui doivent crier à travers leur téléphone, leur voiture ou peu importe le nom de cet acteur que je connais d'habitude si bien. Bref, il y a eu un film comme ça, au moins un, et où justement c'était un peu le concept de oui, c'est un zombie, il a envie de manger des cerveaux, mais en fait il tombe amoureux d'une humaine, d'une survivante. Et du coup, bah voilà, tu suis ce truc-là de les zombies sont-ils vraiment méchants, prédestinés à... Est-ce qu'ils ont un libre arbitre? Est-ce qu'il y a encore de leur ancienne humanité en eux? Bref. Donc oui.
Oui, complètement, parce que on voit que...
Je cherche évidemment tout de suite le nom de l'acteur.
Parce qu'on voit que, par exemple, dans The Walking Dead...
Nicholas Hoult, voilà. Il
oui,
suffit
Nicolas
que je
Hoult.
Le cherche pour que ça me revienne.
Oui, Nicholas Hoult, effectivement. Comment ça s'appelle dans The Walking Dead, il y a beaucoup aussi le côté des intrigues. Je pense notamment à Milton dans la saison 3, mais à tous les
Milton,
scientifiques.
Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, car moi je m'en souvenais pas, parce qu'évidemment qu'on ne vient pas avec Walking Dead pour rien, c'est une de mes séries préférées, mais on a recommencé à la regarder récemment.
Ouais.
On est en plein dedans, on est au début de la saison 4 là, donc pour ceux qui connaissent la prison. Et Milton, qui est donc le bras droit savant du gouverneur dans la saison 3.
Et qui en fait se pose la question de est-ce qu'un zombie, a encore.
Oui,
son
est-ce qu'il y a,
humain,
y a encore la personnalité et l'humain qu'il était qui sommeille.
Et
en
soi, c'est dommage parce que en fait, la série est. Ne parle pas de ça, donc...
Love the Walking Dead, en règle générale, effectivement, te fait comprendre très rapidement, et Robert Kirkman, du coup, le encore une fois, le scénariste du comics, donc, d'ailleurs, le comics qui a été publié en 33 tomes et 193 chapitres, car dans les comics, donc on sait que c'est chapitre par chapitre, de 2003 jusqu'en juillet 2019, donc écrit par Robert Kirkman au scénario et dessiné par Tony Moore puis Charlie Haddar, voilà. Mais donc Robert Kirkman le dit très rapidement dès le deuxième chapitre, si je dis pas de bêtises, ou le deuxième tome, où à la fin il avait fait, c'est pas une préface du coup vu que c'est à la fin, mais une postface, où il précise, en gros je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il y a un truc en mode, pour ceux qui s'attendent à une histoire d'horreur et à avoir des frissons d'horreur en lisant ce comics, vous allez être déçus parce que c'est absolument pas mon œuvre. Là moi ce que je veux faire c'est une étude sociologique et psychologique du personnage de Rick Grimes, donc notre shérif adoré, personnage principal de The Walking Dead, enfin personnage principal en gros, et de suivre en fait comment un être humain évolue et est impacté par toutes les horreurs qui se passent au fur et à mesure de, enfin les horreurs, tout ce qui se passe post-apocalyptique après un tel événement, comment un être humain évoluerait quoi. Donc voilà, c'est effectivement pas un truc qui parle d'horreur. Et pour le coup, Walking Dead, que ça soit le comics, la série, le jeu, je sais aussi qu'ils ont fait après ils ont écrit Robert Kirkman. De toute façon, je crois qu'il est derrière tous les projets à chaque fois. Enfin, pas derrière à l'initiative forcément, mais il est toujours en...
Il prend sa thune quoi.
Non, il prend pas que sa thune. Il est aussi là en scénariste ou je sais que sur la série justement, il est pas juste là pour prendre sa thune. Enfin, il participe à la création des projets et tout. Bref, et il a écrit des romans aussi avec Jay Bonasinga, inconnu au bataillon de mon côté, mais plusieurs romans du coup où ils approfondissent d'autres aspects de l'univers qui sont pas approfondis dans les comics ou la série, ou d'autres personnages, et notamment le personnage du gouverneur. Voilà. Je reste dessus depuis tout à l'heure, donc je reviens rapidement à mon film avec Nicholas Hoult, mais donc c'est Warm Bodies dont je parlais, sorti en 2013.
Ah, ça me dit un truc. Ouais,
bref, donc du coup voilà, donc The Walking Dead, œuvre que j'aime énormément parce que bah, comme vous le savez depuis maintenant 3 ans, je suis passionnée de psychologie et de tout ce qui touche à comment fonctionne un être humain, comment il a impacté les rouages, les logiques de pourquoi il a vécu ça et donc comment il est aujourd'hui, pourquoi il agit comme il est aujourd'hui maintenant, enfin bon bref. Donc The Walking Dead répond fort à cette demande, mais elle répond encore plus même, étant donné que le comics et la série partent sur les mêmes bases narratives, avec une histoire qui va à peu près dans la même direction, mais où finalement il y a quand même pas mal de changements, des personnages qui n'existent pas dans la série qui sont dans le comics, des personnages dans la série qui ont un rôle certain dans la série qui finalement dans le comics vont beaucoup plus loin ou ont d'autres rôles, etc. Enfin, il y a vraiment des grosses variantes par rapport aux personnages, rien que justement pour, vu que je viens de le citer, le gouverneur du comics, le gouverneur de la série sont complètement différents, ils n'ont pas du tout la même énergie, la même personnalité. J'ai le premier tome des fameux romans dont je parlais où on se concentre un peu plus du coup sur le gouverneur que j'avais commencé à lire mais je l'ai jamais fini et j'ai jamais surtout plus développé que ça ma lecture là-dessus. Donc je peux pas dire à quel point leur backstory ou vraiment leur personnalité diffère. C'est deux psychopathes, ça c'est sûr. On est quand même sur un grand méchant qui a à peu près des caractéristiques, notamment le fait qu'il se fait crever l'œil par Michonne et qu'il a ensuite son espèce de bandeau de pirates et tout qui se ressemble, mais avec vraiment des personnalités différentes. Je pense aussi au personnage de Tyrese, qui dans le comics devient le meilleur ami de Rick, là où dans la série il est quand même pas très très important. Ça devient un membre du groupe que tout le monde apprécie, mais il reste pas longtemps. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui changent. Andrea qui meurt dans la série, alors que dans le comics ça devient la nouvelle copine bras droit et c'est un membre hyper de Rick pardon et c'est un membre hyper hyper important du groupe. Enfin bref, énormément de choses qui peuvent différer et ça moi j'aime trop qu'on prenne du coup la même base, les mêmes personnages mais qu'on leur fasse vivre quand même des choses un peu différentes pour voir comment ils auraient pu évoluer différemment, etc. quoi. Donc voilà. Donc la série qui est sortie en 2011, qui s'est terminée en 2022, 11 saisons, plus quelques petites web-séries entre les saisons. Série donc qui a duré, chacun je sais, beaucoup de gens se sont arrêtés entre la saison 5 et 6 en gros.
Non.
Vous avez tort.
Tu vas jusqu'à la 7.
Ah je te jure que non. La majorité des gens dans mon entourage se sont arrêtés soit juste après la prison parce qu'ils en avaient marre qu'ils n'arrêtent pas de changer de lieu. Oui. Alors que bon, ils n'arrêtent pas de changer de lieu, excusez-moi. Ils ont eu un camp provisoire, la ferme, la prison. Ah. C'est pas non plus 46 lieux différents. Et puis parce qu'il y a ma meilleure amie notamment, bon, qui ne m'écoutera je pense pas, mais... ce soir, mais qui m'a dit qu'elle s'est arrêtée au terminus parce qu'il tombe sur une communauté cannibale et que ça a été trop pour elle. Donc
oui,
non, il y a vraiment des trucs au niveau de la prison. Les gens ont beaucoup, après la prison, je veux dire, quand la prison tombe, il y a eu beaucoup de gens qui ont abandonné.
Oui, mais bah, j'ai.
Je t'en prie.
Là déjà, on est en train d'être en full spoil, donc. Donc attention.
Oui, alors pardon, mais pour le coup, là, on est vraiment que sur des lieux, etc., etc. Le spoil est quand même.
La prison est tombée.
Le spoil est quand même bien périmé.
Bah donc maintenant les spoils sont périmés.
Eh bah, on va parler d'une série qui, oui, qui est bien terminée depuis un bon moment. Je vais peut-être pas tout spoiler non plus.
D'accord.
Mais voilà.
Alors attention, si vous êtes en train de regarder The Walking Dead, vous voulez pas être spoilé, faites attention, ça va être terrible ce qui va se passer. Ici, c'est que pour les gens qui s'en fichent ou pour les gens qui ont déjà ou fini
non,
la série.
Non, je vais essayer de faire attention. Effectivement, tu vas bien de me le rappeler.
Je ferai pas attention.
Et super. Il attendait que ça en fait.
Je pense, oui. Je pense que le problème avec le truc de la prison. C'est qu'effectivement, on était dans un confort. Quand tu regardes ça, elle reste quand même quasiment 2 saisons, la prison.
Ouais. Enfin non, elle reste une saison
tombe,
et 3 épisodes.
Quand elle tombe, c'est... Tu vois, il y a tout ce fameux luxe enfin retrouvé. Et du coup, ça fait quand même un effet très... Moi, je sais, je l'ai ressenti. Hein. Ça fait quand même un effet très... pincement au cœur... Enfin, de somme, de dire de te voir
oui,
à zéro. Et ensuite, là où je veux mettre les points sur les
c'est
i,
ça qui est fort pour moi.
Je comprends tous les gens qui ont décroché saison, on va dire commencer à la 5 et jusqu'à la 8, je pense. Parce que moi, j'ai décroché 7 ou 8, j'ai oublié. Parce que moi, je n'en pouvais plus. Déjà, les épisodes devenaient inintéressants. Et en fait, ils devenaient inintéressants, pourquoi ? parce que l'action se concentrait sur énormément de lieux différents pour suivre chaque personnage.
Oui, mais c'est...
Et en fait, à un moment donné, si t'as une intrigue qui te plaît moins, parce que forcément, t'as une intrigue qui te plaît moins, parce que t'en as plusieurs, et à partir du moment où t'en as plusieurs, t'en as une qui te plaît moins. Et en fait, si tout ton épisode, il est focalisé sur une intrigue qui te plaît moins, tu t'ennuies pendant 40 minutes, et derrière, si en plus, l'épisode d'après, c'est pas l'arc que tu voulais revoir... Tu as beaucoup de ressentiment envers la série et de dire vous m'avez quand même.
Il y a un moment donné, il y a aussi une question de goût, du coup, parce que tu peux reporter là-dessus avec énormément de séries, etc. Désolé pour toi si tu aimes un seul personnage dans la série. Bon, il y a
alors,
un moment donné.
Toi, quand est-ce que tu t'es arrêté?
Moi, je me suis pas arrêté, j'ai tout regardé.
Ah, ok.
Quand est-ce que j'ai commencé à trouver que ça perdait en qualité? À partir de la saison 9-10. Pourtant, je suis vraiment. Bah, désolé encore une fois, donc on spoil un peu les concepts des saisons, etc. Mais je crois que c'est ouais, saison 9 ou 10, avec l'arrivée des Whisperers, qui est hyper intéressante, moi je trouve. Parce que donc, les Whisperers, cette communauté qui se cache à travers les hordes de zombies en portant des peaux, enfin des masques faits de peaux de zombies, etc. Qui se comportent un peu comme des zombies, qui du coup chuchotent pour ne pas alerter les vrais zombies qu'ils n'en sont pas eux. Donc le concept est hyper cool au niveau notamment de la création de ce groupe là, etc. Puis forcément on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au sein de ce groupe spécifique. Oui. Mais là oui, j'ai commencé à trouver qu'on perdait beaucoup en écriture, peut-être plus même de mes personnages préférés. J'ai trouvé notamment que le personnage de Daryl, ça commençait à faire un moment, à ce moment-là je pense que ça m'a sauté aux yeux, que le personnage de Daryl que j'adore, qui a donc été créé spécialement pour la série et pour l'acteur Norman Reedus qui l'incarne, il évoluait plus du tout, il reste constamment le même, là où certains autres continuent quand même à évoluer, qui continuent à se passer quelques dingueries, etc. Et là, oui, j'ai commencé à voir qu'il y avait une chute dans l'écriture, que aussi je voyais qu'il voulait aller à des endroits, mais il savait pas trop comment y aller, donc c'est assez maladroit. Bon, et très, très clairement, je n'ai pas du tout aimé au moins la dernière saison, voire les deux dernières saisons. J'ai continué à regarder parce que, donc, encore une fois, c'est une œuvre globale que j'aime énormément, et je voulais savoir où ils allaient à la fin et ce qu'ils finissaient de faire. Et puis aussi parce qu'ils ont voulu ensuite faire des spin-offs sur certains personnages spécifiques, et que je comptais bien regarder au moins le spin-off sur mon personnage principal, notre cher Rick Grimes. Donc j'ai été jusqu'à la fin, mais la fin m'a vraiment déçue. J'ai trouvé que c'était hyper mal écrit, alors que justement c'est dommage, parce que d'un point de vue scénaristique, on arrive à l'apogée de la reconstruction d'une société, en fait. Parce qu'évidemment que oui, l'œuvre va de là. On part de la chute totale de la société au chaos, d'il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune institution, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi, il n'y a plus que la survie. Et l'inconnu aussi, parce qu'au début, donc, on ne sait pas comment se défendre contre les zombies, qu'est-ce que c'est, comment... bref, et quels sont les dangers aussi. Et finalement, au fur et à mesure, évidemment, que par tous ces fameux lieux, donc, ils finissent en fait par apprendre de plus en plus de choses et par finir par reconstruire de plus en plus de choses. Et hop, ils se reprennent un truc dans la gueule qu'ils n'avaient pas vu venir et qui est en fait un danger qui n'avait pas encore été exploré. Et donc, ce lieu qui était devenu sécurité s'écroule, et donc ils vont en refonder un autre. Et évidemment qu'à la fin, comme tu le dis, ces fameux arcs avec ces fameux endroits différents, c'est que c'est plusieurs communautés qui ont réussi à être stables qu'on suit. Qui se réunissent évidemment tout autour donc effectivement des personnages qu'on suit depuis le début, et donc à la toute fin on est sur vraiment la reconstruction d'une société de l'humanité qui reprend son autorité, je sais même pas comment appeler ça, enfin qui reprend son indépendance dans cette nouvelle forme de monde, et c'est avec, en cohabitant, enfin en survivant avec cette forme de vie, ce nouveau prédateur plutôt. Bref.
Mais alors, moi j'ai deux questions.
Ouais.
Première question, est-ce que à la fin on fera un petit point sur les théories de fans ou pas?
Non, parce qu'aujourd'hui elles n'ont plus lieu d'être.
Je sais, mais c'est ça qui est marrant, c'est de revoir les théories, notamment.
Oui, mais si tu veux.
La théorie du rêve. La théorie du rêve
était incroyable, oui. Bien sûr. Toujours. Moi je la trouvais super. Moi, je la trouvais super. Au moment où ça est sorti, c'était hyper crédible. Je la trouvais super. Mais d'accord, on en reparlera, parce qu'on peut pas, spoiler les, enfin, comment teaser les gens, les gens comme ça, et ne pas en reparler pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle.
Ensuite, deuxième question.
Oui.
Parce que je suis bien décidé à aller jusqu'au bout de la série. je suis décidé, je vais m'accrocher pour aller jusqu'au bout.
Ah oui, mais on va aller jusqu'au bout.
Est-ce que tu veux savoir? Je vais pas spoiler des éléments de plus d'éléments que ça, mais est-ce que tu veux savoir comment se finit les comics?
Bah parce oui, c'est pour ça que j'ai commencé à les acheter.
Mais est-ce que tu veux que je te le dise? Est-ce que tu veux que je donne un élément? Ok, dommage, parce que il y a un point pour moi qui est la meilleure, enfin fin possible à ça, et je pense qu'il n'y a pas ça dans la série. Et ce que je trouverais très dommage. Mais bref, du coup, renseignez-vous.
Super, merci Thomas pour ces interventions.
Bah non, mais c'est un bon élément. Mais si tu veux pas que je le dise, je le dis pas.
On a dit qu'on limitait le spoil. Il y a que toi qui a dit.
C'est pas un major spoil. C'est pas un major spoil.
Mais comment se finit les comics? Excuse-moi, je vois pas un plus gros spoil que la
mais
fin.
Mais non, mais c'est la métaphore, c'est l'analogie à la fin. Je dis pas qui est ce qui est mort. Je dis pas qui est ce qui est en vie.
D'accord, mais moi je vais comprendre.
Bah non, mais ok.
Vas-y, dis-le alors, vas-y.
En gros, le comics se finit...
Désolé pour tous ceux qui voulaient pas l'entendre non plus, hein, il insiste.
Le comics se finit avec les zombies, qui sont en fait des propriétés privées, personnelles des êtres vivants, et en fait se finit avec un procès de quelqu'un qui a tué le zombie de quelqu'un d'autre, et qui se prend une peine de prison pour ça. Et ça, c'est magnifique, cette fin. C'est le retour du capitalisme, le retour de la propriété privée,
ah bah, complètement.
Le retour de comment est-ce que l'être humain a toujours maîtrisé les menaces en fait se les appropriant.
Complètement.
Et du coup, je trouve que c'est une très très belle fin. Et t'as vu, pas de spoil, pas de majeur spoil.
Bah quand même, mais oui.
Non mais un petit spoil comme ça.
Ça vous donne en tout cas une idée de ce que traite cette œuvre qui de base peut paraître ne parler que de map que de zombies. Je vous propose de faire une petite pause musicale après tout ce blabla. Et on va s'écouter Space Junk de Wong Chung. Je suis désolée, c'est horrible ce que je suis en train de faire parce que je n'ai
Wong
aucune
Chung.
Idée. Chung.
Ouais.
Qui n'ai aucune idée de la prononciation. Donc Wong Chung 57. Okay. By the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well. Sifting through the system for the piece that knows my name. Endlessly I list them in the master game. Welcome to my world. Through I'm riding on space junk, and it's bringing me to you, bringing me to you. Through the tenth dimension to the certainties beyond. Subatomic bomb, machine that spins within me, and the spirit that drives me on, searching for an answer. Welcome to my world. Space junk. Et bonsoir de nouveau à toutes et à tous. J'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie, que j'ai pas choisi un sujet trop niche.
Moi, je passe super bon moment.
Que ceux qui ne connaissent pas sont intéressés, qu'on spoile pas trop, que ceux qui connaissent et qui aiment sont là, que ceux qui aiment et qui... Non, qui connaissent et qui n'aiment pas, on est peut-être en train de vous donner une autre grille de lecture, j'espère.
Oui.
Mais donc, on parle de Walking Dead ce soir pendant encore un petit peu moins de 10 minutes. Déjà parce que j'ai envie de mettre un autre morceau de la série, même si bon, il n'a pas duré très longtemps. Mm-hmm. Et puis parce que, ensuite, malheureusement, il faudra se dire au revoir, mais ce n'est pas tout de suite.
Ah.
Donc on parlait de la série un peu, j'ai un peu listé les différentes œuvres dérivées, les différentes œuvres de cette série. J'ai oublié complètement de dire, je viens d'y penser là, mais que évidemment donc ils ont fait la série principale de Walking Dead. Ensuite ils ont voulu faire du coup, comme je disais, vu que c'est une œuvre qui aime bien prendre son univers, potentiellement les mêmes personnages, et ensuite aller explorer comment d'autres personnes ou d'autres formes de ces personnages-là peuvent évoluer dans ce monde-là. Ils ont aussi fait d'autres spin-offs avant la fin de la série, finalement. Donc des séries dérivées du même univers, avec Fear the Walking Dead. Ils ont fait aussi... j'ai oublié comment elle s'appelle, Beyond Our World, ou un truc dans le genre, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, c'est la série, je vous dis peut-être des bêtises, hein, mais c'est au niveau du titre, c'est très probable. Je sais qu'il y a World dedans et Beyond, il me semble, mais bon, voilà. C'est l'après, en fait, Walking Dead. Ça se passe 20 ans après, après la fin de Walking Dead, on va dire, et ça suit Judith. Pour les gens qui connaissent ce personnage.
Ok.
Voilà. Donc, Thomas, qu'est-ce que tu préfères, toi, en gros, dans la série quel est ton aspect, peu importe quel qu'il soit ou un épisode, ou peu importe, qu'il soit scénaristique, qu'il soit conceptuel, qu'il soit personnage,
Moi, je pense. J'ai plusieurs coups de cœur dans cette série. Le premier épisode de The Walking Dead.
Ouais, j'allais le dire aussi.
Et le meilleur épisode de toute la série.
Il est incroyable.
Et c'est peut-être
le meilleur pilote de tous les temps.
Oh oui, en termes de pilote, oui, c'est possible que ça
vraiment
tous les temps.
Le meilleur pilote.
Après, ils ont fait un truc qui est très très malin, c'est qu'ils ont pris un réalisateur de cinéma.
Ouais.
Alors c'était déjà le cas pour Twin Peaks, mais Twin Peaks, en fait, c'était la série de David Lynch. Donc voilà, regardez Twin Peaks hein, si vous ne l'avez pas vu, c'est incroyable. Il faut s'accrocher parce que ça ne vous prend pas par la main, mais c'est incroyable. Et du coup, donc Frank Darabont, j'ai pas dit que c'était
lui
le réalisateur,
tout à fait.
Qui a fait notamment La Ligne Verte
mais
et
d'ailleurs,
Les Évadés.
Pardon, excuse-moi, hein, mais tu dis que c'est que le premier épisode, mais j'ai vu que c'était pas que le premier épisode, c'est la première saison, et ensuite il y a eu des gros désaccords avec AMC, et hop, il s'est fait évincer du...
Je crois que Frank Darabont est producteur exécutif sur la première saison. Et je crois qu'il n'a réalisé que le premier épisode.
Eh bien, ce n'est pas ce que j'ai vu tout à l'heure. Mais bref, très bien.
Il est producteur exécutif. Après, il y a un deuxième producteur exécutif. Et à partir de la saison 5, Scott M. Gimple, qui était producteur exécutif déjà depuis le début, devient le producteur exécutif principal. Donc pour ceux et celles et ceux qui connaissent pas, un producteur exécutif, en gros, sur une série, c'est un peu le chef de la série. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige les scénaristes, c'est lui qui dirige toutes les équipes, c'est lui qui donne en fait le là, qui donne où va la série, et c'est lui qui valide tout. Donc c'est un peu le grand chef d'une série, quoi. Et Scott N. Gimple, selon moi, a totalement vendu l'âme de The Walking Dead. Mais bon, c'est que mon avis à moi. Et donc j'ai ça qui est très très bien. J'ai aussi saison 5 ou 6, je crois, l'épisode centré sur Morgan, sur le personnage de Morgan. À toi de me dire. Épisode d'une heure.
Je me souviens plus du tout, je t'avoue, parce que du coup, moi, j'ai regardé un peu Fear the Walking Dead et Morgan, à un moment donné, s'absente complètement après que Rick retombe sur lui dans la saison 3. Désolé
c'est
pour le spoil.
Celui-là.
Je sais, et c'est pour ça que laisse-moi finir.
Ok.
Après que donc Rick le retrouve dans la saison 3, ceux qui connaissent, vous verrez très bien de quoi je parle. Le personnage disparaît complètement, ou peut-être que je dis une bêtise, peut-être même encore plus tard, parce qu'à un moment donné, on le recroise de nouveau, enfin bon, bref, à un moment donné, le personnage part, et finalement, donc, on le retrouve en fait dans Fear the Walking Dead. Donc moi, je me souviens de beaucoup de Morgan dans Fear the Walking Dead. Je t'avoue que les spécificités de quand est-ce qu'il apparaît, quand est-ce qu'il disparaît dans The Walking Dead, j'ai le tout début, j'ai la fin, mais j'ai pas le milieu. Donc je peux pas te dire okay. spécifiquement quel...
Donc j'ai ça que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et après, il y a quand même aussi une sorte d'ambiance assez cool. Moi j'ai dépeint quand même, je pense, l'absence de bons réalisateurs et réalisatrices sur la série.
Alors justement, pendant que tu parlais, je me permets donc de rectifier, je ne dis effectivement pas des bêtises, Frank Darabont a été scénariste sur 4 des 6 épisodes de la première saison, en plus effectivement d'être producteur exécutif, et même je sais plus quel autre rôle il avait, mais bon bref, il avait beaucoup plusieurs casquettes sur la première saison, et il n'a pas donc fait que... réaliser que le premier épisode.
Oui, non, moi je te parle de la réalisation. Je te dis, l'idée, la bonne idée pour le pilote, ça a été de prendre un réalisateur de cinéma. Mm-hmm. Et du coup, qui fait que le premier épisode, en termes de réalisation, a vraiment une allure d'un film.
Ah oui, non, mais vraiment, il est hyper bien.
Et voilà, notamment, quand tu regardes, c'est dommage qu'il y a plein de trucs qui sont pas repris plus tard, mais... quand tu regardes, bon là ça c'est pas un spoil, c'est le premier épisode, à un moment donné je m'en fiche, hein, regarde le premier épisode, mais Morgan quand il voit sa femme en zombie, quand il veut tuer pour que sa femme vienne, enfin c'est juste magnifique tout ce qui se passe, et ça c'est de la réalisation de cinéma, et moi je suis un peu triste que derrière ils aient pas repris le pas sur tout ça et faire venir des réalisateurs et réalisatrices de cinéma. Après voilà, c'est pas grave.
Je comprends. Donc pour toi c'est le premier épisode et effectivement je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Le premier épisode est incroyable et moi donc je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est vraiment l'écriture en tout cas sur les premières saisons des personnages. Là dans notre revisionnage avec Thomas du coup. Je me suis surprise, alors que j'ai déjà vu les 3 ou 4 premières saisons, j'ai déjà dû les voir 2 ou 3 fois, je me suis surprise à réanalyser complètement le personnage de Shane, et le personnage du gouverneur, et le personnage de Rick, enfin en fait tous les personnages, le personnage de Laurie aussi, et en fait j'ai vu des choses que j'avais pas vues avant, d'à quel point tout est, enfin c'est hyper... C'est hyper bien écrit, les personnages sont hyper bien écrits, y a pas de... d'un point de vue psychologique et de continuité psychologique, je trouve ça assez fou. Le personnage de Shane, par exemple, pour voilà, la clé de lecture que Thomas m'a donnée finalement, avec laquelle il avait complètement raison et qui a fait un déclic sur comment le personnage est écrit, c'est qu'en fait, le personnage de Shane, dès qu'on le voit, une fois l'apocalypse est arrivé, évidemment, hein, pas dans la première scène où il est avec Rick et qu'il s'est encore rien passé, le personnage de Shane a déjà vrillé en fait. Le personnage de Shane vrille à partir du moment où l'apocalypse arrive en gros, et avec quelque chose sur lequel il se trompe mais qui croit qu'il se passe. Et à ce moment-là, il part en mode survie totale. Et ça, je ne l'avais jamais vu.
Oui,
moi, j'étais
toujours...
partie sur le truc. Merci de me laisser parler. J'étais vraiment partie sur le truc de. Shane est juste quelqu'un d'assez immoral qui a jamais voulu l'assumer et qui du coup dans cet apocalypse embrasse plus cette partie de lui là, alors que ça c'est le gouverneur, Negan à la limite, mais Shane non, Shane c'est vraiment de la survie totale et c'est un personnage qui s'appuie énormément sur son meilleur ami et qui se retrouve sans plus rien et qui s'écroule complètement et donc qui fait ce qu'il fait pour essayer de survivre, pas que ça soit bien ou quoi que ce soit, hein, juste j'ai eu vraiment une grille de lecture qui m'a, enfin j'aime encore plus le personnage de Shane, voilà. Et ce n'est pas le seul à avoir ce truc-là. Et vraiment, en tout cas, sur les premières saisons, j'irai jusqu'à la saison 5, je trouve que vraiment, c'est hyper, hyper bien. Les 3 premières saisons, de toute façon, je les trouve incroyables. Vraiment incroyables. Après, ça baisse un petit peu, mais vraiment très légèrement. Et j'aime vraiment beaucoup. Bref, voilà. Donc, ce sont toutes les raisons pour lesquelles, vraiment, foncez regarder Walking Dead, que vous l'ayez déjà vu, que vous ne l'ayez pas vu, que vous hésitiez, que vous ne vouliez pas. Vraiment, je vous assure que ça ne parle pas de zombies. Que les zombies, au début, on a autant peur que les personnages, et qu'au fur et à mesure, en fait, on les suit dans le fait qu'on se rend compte que c'est pas les zombies le problème et le plus dangereux, et qu'en fait, les zombies sont plutôt... On peut plutôt les gérer. Et je vous conseille aussi vivement le jeu de Telltale Games, si vous l'avez pas déjà fait, The Walking Dead. qui me semble est vendu en pack complet sur la PlayStation, sur le PS Store, sur Steam évidemment, parce que c'était vendu par saison à l'époque, mais le studio entre temps a coulé, a été racheté, a rebidule, enfin bon, bref. Mais vraiment, le jeu, la première saison, avait gagné le prix du jeu de l'année de toute façon, donc voilà, c'est vraiment hyper cool. Si vous aimez évidemment les jeux narratifs, voilà, où il n'y a pas non plus un gameplay de fou et où juste vous incarnez, vous vivez une série et vous prenez les choix dans la série et vous vivez la série dans le jeu, quoi. Une série, quand je dis une série, c'est l'histoire du jeu, pas une série, la série dont on parle depuis tout à l'heure. Bref, voilà. Je vous propose donc de terminer juste par un petit thème supplémentaire de The Walking Dead qui s'appelle The Day Will Come, et ça signera la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-nous, faites-nous vos retours sur Les Vilaines Festival sur Instagram notamment, ou sur Facebook, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, enfin voilà, d'avoir des retours, c'est toujours cool. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet random.
Salut, salut.
Bonne soirée.